Свету мало, белый снег валит, валит, а мне мама целоваться не велит, а мне
C'était une berceuse qui m'enchantait ma grand-mère quand j'étais petite tout le soir.
C'est en russe ?
C'est en russe, ça parle d'une mère, en fait une mère qu'elle n'a jamais eue, ma grand-mère. Et elle adore cette chanson, elle le chante souvent, même aujourd'hui, à ma petite fille.
Elle faisait quoi quand elle était en Russie ?
Et elle travaillait à la communication en fait chez Staline. Et c'était une communiste. Et puis elle était une ballerine aussi, au Bolshoï Théâtre, après.
Et sa belle-mère, elle était couturière au Bolshoï Théâtre ?
Voilà, et elle danseuse.
Et vous avez grandi dans quelle langue, à part le russe ?
Nous, on a grandi entouré de quatre langues, principalement. Donc l'hébreu, le russe, le yiddish, le polonais et l'anglais. Plus tard, le français aussi.
Et vous pouvez chanter encore en russe ?
Moi ?
Ouais.
Oui, un petit peu. Mama, miei mama. Oh, j'ai un petit peu oublié la parole. C'est tellement la parole de ma grand-mère que ce... Oui, c'est émouvant de le chanter en russe. Mais je comprends très bien. Mais je peux siffler.
Tchekhov, c'est la mélancolie d'une société en disparition. C'est beaucoup plus comme une forêt avec une lumière qui bouge et que la forêt risque peut-être de s'écrouler. Alors, qu'est-ce qu'on fait des ombres ? Qu'est-ce qu'on fait des lumières ? Mais c'est pas du tout un théâtre de mélancolie. Pour moi, pas du tout, du tout, du tout.
En vouloir aux lieux qui existent déjà. Il faut les menacer sans cesse d'en créer des nouveaux s'ils ne nous laissent plus entrer ou sortir. On ne choisit rien du départ, une date et un lieu de naissance. Plus tard, il nous faudra inventer de nouvelles adresses. On passe sa vie à répondre d'où l'on vient et à inventer le lieu où l'on va. Gal Hurwitz a grandi en Israël, le lieu de l'exil de ses grands-parents, juifs russes et polonais. Elle cite Gilles Deleuze « Le territoire n'existe pas, ce qui existe, c'est le mouvement ». Sa mère lui a rappelé un jour que Gal en hébreu, ça voulait dire vague, et donc qu'il fallait y aller, avancer, qu'il n'y avait pas de limite. Elle a fini par aller en Allemagne, par retourner en Pologne sur les traces de son histoire. Dans la ville de Lublin, elle a tenté d'habiter le vide. Il manque 3 millions de personnes, alors comment on fait, comment on témoigne ? C'est Grotowski, le metteur en scène polonais, qui disait « On porte son enfance sur son dos, et avec son corps sur scène, on se confesse du manque de quelque chose, ce que la vie ne nous a pas donné ». La vie ne donne pas toute l'histoire. Les lieux sont trop vides ou trop vissés ou divisés. Gal Hurwitz invente alors un nouvel endroit, un lieu qui en veut à ceux qui se sont fermés. Un lieu qui manque, c'est un théâtre dans le sud de Tel Aviv à Jaffa. Il s'appelle Eti Ilsoum, du nom de cette écrivaine juive hollandaise. Il accueille les adolescents en difficulté, juifs, arabes, russes, éthiopiens, peu importe. Ils jouent Tchekhov ou Shakespeare. Ils n'ont plus besoin de se demander d'où ils viennent, ils savent où ils vont. C'est une adresse qui n'existait pas et ils ont tous la même maintenant. Ici, on peut se croiser, s'approcher. À 18 ans, Gail Hurwitz avait quitté l'armée. Elle dit « J'ai peur des armes et du nationalisme ». De toute façon, elle n'était pas très douée, elle avait oublié son arme dans les toilettes et s'était fait réprimander. À 18 ans, elle traverse un océan, des frontières, des forêts, celle de Lublin en Pologne, et le bois de Vincennes à Paris pour arriver au Théâtre du Soleil et y passer un an. De retour à Jaffa, elle invente un lieu et de la proximité. Un point dans la ville, un lieu où on va, une adresse qui n'existait pas, avec des jeunes corps libres qui cherchent ce que la vie ne leur a pas donné et qui empêche désormais toute tentative de les enfermer. Gail Hurwitz, metteur en scène, née en Israël en 1986, qui a voyagé aux États-Unis, en France, en Belgique, avant de rentrer à Tel Aviv et de fonder un théâtre, une école, Etil Soum, pour des adolescents de toutes origines et confessions à Jaffa. À la musique, ce sera l'Holomis, le quartet vivant passionné de la musique des Balkans. C'est une vie d'artiste sur France Culture, une vie qui capte tout ce qu'il y a autour comme un médium.
Donc l'esprit de l'enfance et la magie sont constitutifs du théâtre.
Pour moi, je ne peux pas aller plus loin que ce dont moi j'ai besoin, de ce dont ont besoin les comédiens qui décident de travailler avec moi. Évidemment, en général, c'est des gens comme ça, c'est des gens qui ont besoin de cette espèce de vérité poétique.
C'est à ça que vous reconnaissez qu'un comédien peut travailler avec vous.
Je ne sais pas si c'est seulement à ça. Mais c'est un parti ça. Je crois que quelqu'un de trop intellectuel, qui aurait besoin de trop de raisonnement pour commencer à travailler, je crois effectivement que je ne pourrais pas travailler avec lui. Voilà. Je pense que j'ai besoin d'images et que je leur donne des images, que je ne leur donne pas beaucoup d'explications. Parfois, si, le soir, après la répétition, nous parlons, comme tout le monde. Mais sur le champ de bataille de la répétition, je sais que je n'intellectualise pas. Je crois que je donne des images, que je reçois leurs images. Et que je les reçois, j'en suis touchée, je renvoie une autre image ou une autre vision, une autre histoire. Moi, je pense qu'un écrivain aussi est un médium. Moi, je pense. Enfin, je veux dire, c'est reçu. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, c'est reçu. C'est reçu, on est des médiums. Comment c'est venu telle idée, telle image, comment c'est venu? C'est parce qu'il y a un état de réceptivité, il y a une sorte de vacuité presque, un vide fertile. Il y a un moment où on doit être un peu vide, mais c'est le bon vide évidemment, soit un vide matriciel, quoi, un vide où quelque chose peut pousser.
C'est la voix d'Ariane Mouchkine. Gail Hurwitz, elle raconte qu'elle travaille avec des acteurs qui ont besoin d'une vérité poétique. Est-ce que vous avez ressenti ça? Des acteurs qui sont un peu comme des médiums, qui peuvent recevoir et puis après...
Je peux dire qu'au Théâtre du Soleil, j'ai toujours aimé ce rapport au non-dit. C'est ce que j'aime dans la vie aussi, je crois. Mais c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup. Surtout Ariane, on regardait, on contemplait, on regardait autour... pendant des heures même à faire le décor, et puis c'est vrai que on n'a jamais cité aucun philosophe aucun écrivain. On était vraiment juste dans le moment présent. On a joué, on a discuté des histoires, on a vécu, on a fait vivre des moments poétiques, et c'est pas la même chose que de parler. Je crois, oui, effectivement, elle doit chercher ça chez ses comédiens, mais aussi chez des êtres humains, parce qu'elle m'a jamais auditionnée pour le théâtre. En fait, elle m'a vue, elle a vu peut-être mes larmes, parce que j'étais vraiment super émue de venir à la cartoucherie pour la première fois. Moi, israélienne, j'ai tellement entendu parler, et puis...
Est-ce qu'à 18 ans, vous aviez vu le dernier caravansérail?
Oui, je suis venue exprès à Paris, toute seule d'ailleurs, pour voir le dernier caravansérail. Et je n'ai jamais, J'ai jamais ressenti une chose pareille, en fait. Un travail collectif sur scène qui fait naître des moments pauvres, poétiques, politiques, mais pas dans le sens justement intellectuel, politique, dans le sens humain. Et j'ai ressenti une émotion très forte qui me disait, voilà, vas-y, fonce-toi, va là-bas, tu dois faire partie de cette troupe. Donc je suis allée la voir tout simplement, lui parler, lui dire, c'est mon rêve, je suis tout à fait prête de nettoyer les toilettes s'il faut.
Et de faire la cuisine.
C'est faire la cuisine, ce que j'ai fait d'ailleurs pendant 3 mois avant de rentrer dans la troupe. Et puis je pensais qu'elle va me dire, bon, t'es très sympa, au revoir, on se reverra dans 6 ans, tu seras plus grande. Mais elle m'a dit, elle m'a regardée, elle a souri, elle m'a dit, bon, demain, 8h, ne soyez pas en retard. Et là, silence. Je ne sais plus quoi dire, donc j'ai pleuré. Le lendemain, 8h du matin, j'ai laissé tomber mon billet d'avion. J'étais chez elle où j'ai resté 1 an.
Et qu'est-ce que vous avez appris là-bas du collectif, de l'écriture sur le plateau? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on donne quand on fait partie de la troupe, comme histoire, comme qu'est-ce qu'on donne de soi?
Ce serait jamais la même troupe sans les comédiens qu'elle choisit. Donc chaque comédien apporte son rapport au corps, son histoire personnelle, sa façon de voir les choses, sa langue, son accent d'ailleurs.
Parce que l'année où vous y étiez, c'était les répétitions des éphémères.
Voilà, exactement. Donc c'était vraiment des moments poétiques de bonheur, d'échec, de désespoir. Et chacun pouvait se retrouver, même mon histoire de famille était un petit peu dedans. Et je crois que c'était vraiment important pour elle que chaque personne, s'il vient d'Australie, d'Israël, d'Iran, ramène... son histoire, sa façon de capter la réalité.
Et pourquoi vous avez eu envie de travailler avec des jeunes bédouins dans le sud d'Israël, dans le Negev, dans le désert? C'est des gens qui ont pas, des adolescents qui n'avaient pas du tout l'habitude d'être au théâtre, de faire du théâtre.
Le théâtre, c'est un outil extrêmement fort et ça rend les gens plus, je dirais pas plus humains, mais c'est quand même ça tient sur la compassion humaine. Et quand quelqu'un vit comme un bédouin en Israël, qui parfois ils n'ont pas de maison, ils ont beaucoup de problèmes familiaux, je crois que le meilleur don que je puisse donner à une autre personne, c'est le cadeau de théâtre. Et d'ailleurs, on a monté Molière. C'était notre premier spectacle. Et donc, à travers l'humour, les personnages, ils ont retrouvé toute une vie. Et certains sont comédiens aujourd'hui.
Ils continuent à faire
du théâtre, ce qui n'est pas du tout évident dans leur communauté. Hein. Je veux dire qu'on avait énormément de soucis avec leurs parents.
Pourquoi? Parce que c'est vu comment?
C'est vu vraiment comme une chose étrange. D'abord, les hommes et les filles ensemble, ils ne voulaient pas qu'on fasse filles et garçons ensemble. Et nous, on a insisté. Deuxièmement, monter sur scène, paraître, dire, se mettre dans la lumière, éclairer peut-être les côtés les moins, le plus sombres de l'histoire familiale. Honnêtement, dans cette communauté-là, ça s'est très mal vu, très très mal vu. Mais je crois que les parents, ils voient à quel point leurs enfants sont heureux. Ils sont calmes, ils sont enthousiastes, ils retrouvent la passion. Et c'est ça qui compte finalement, et pour moi aussi.
Slow ze mirshun yanka le mansheiner Die egelach, die schwarzenke mach zu A jingele, was hot schon alle zendela Muss noch die mame singen ay lulu A jingele, was hot schon alle zendela Muss noch die Mame singen, ein Lulu. Ein Gelewas
Galeowicz, quand vous écoutiez cette chanson en yiddish, vous étiez à Lublin, en Pologne.
Oui, oui, je lui ai écouté en boucle, en fait.
Pourquoi ça vous faisait penser à quoi?
Ça m'a fait penser au vide, à l'absence totale qu'on trouve dans les rues de Lublin et de ma famille qui a disparu là-bas, dans cette région. La famille de mon grand-père.
Est-ce qu'on peut lire un petit extrait d'un texte que vous avez écrit sur ce voyage à Lublin?
Je continue mon chemin dans les rues de Lublin et j'entends dans le lointain des sons connus. Un chant en yiddish me traverse de part en part. J'entends Oifen Volksteiter Boim de Itzik Manger. Mon grand-père avait l'habitude de jouer cette chanson sur sa mandoline en buvant de la vodka. Cette mandoline, m'avait-il raconté, était le seul objet qui la sauvait du ghetto de Varsovie. Oifen Volksteiter Boim, Steiter Angebuigen, alle Feigel von dem Boim seinen sich zerflügen. Drei kein Merav, drei kein Misrach und die Recht kein Drum. Und der Boim galust allein, efker von Sturm. Là, je le lis avec un accent hébreu, le yiddish. Mais.
Et ça veut dire
Sur la route, il y a un arbre. Il est tout courbé. Tous les oiseaux de l'arbre se sont envolés. Trois vers l'est, trois vers l'est, et le reste vers le sud. Et l'arbre, ils l'ont laissé toute seule. Voilà. Et je peux dire que cette chanson est l'intermédiaire entre Lublin et moi, vraiment. Entre une culture mourante, le Yiddishland, et une culture israélienne, laïque. Entre la Pologne d'avant-guerre, où résonnait le Yiddish, et celle d'aujourd'hui, où cette langue est silence. Voilà, je suis très vulnérable face à cette langue. Elle m'étouffe, même si je ne la parle pas. C'est comme si une voix intérieure m'avait demandé de la ressusciter là-bas, à Lublin, dans ces rues, dans ce pays.
Mortel. Et qu'est-ce que vous étiez allé faire à Lublin?
Je voulais monter un spectacle autour des histoires de Yitzhak Bashe Wiesinger, un auteur que j'aime énormément, qui vivait dans aux environs de Lublin et qui a beaucoup écrit sur justement le Yiddishland d'avant-guerre. Il me rappelle beaucoup de mon grand-père avec son humour. Mon grand-père n'arrêtait pas de raconter des blagues, mais les mêmes blagues tout le temps. Et on devait rire chaque fois de la même blague, sans qu'il le sache, parce qu'on ne voulait pas trop le blesser. Mais bon, pendant 13 ans, c'est quand même difficile de rigoler de la même blague tous les jours. Mais on l'a fait pour lui.
Et comment c'était présent, avant d'y aller en Pologne, avant d'y retourner, d'aller à Lublin, cette histoire polonaise, quand vous étiez enfant, en grandissant, c'était présent comment?
Mon grand-père m'avait toujours parlé de la Pologne comme le pire endroit du monde. Bien évidemment, il ne voulait jamais y retourner, ni en Pologne, ni en Allemagne. Pour lui, c'était l'enfer absolu. Il m'a parlé des Polonais comme si c'était eux les nazis. En fait, à 57, avant de s'installer en Israël, il est parti avec ma grand-mère en Pologne pour voir si quelqu'un de sa famille avait survécu. Il avait 13 frères et sœurs, et un père et une mère. Et il a découvert que personne n'a survécu la guerre, sauf un frère dont je vais vous parler peut-être tout à l'heure, qui s'est évadé en Belgique. Et puis, quand il a eu cette nouvelle, par le Croix-Rouge, que personne n'a survécu, il a décidé d'effacer la langue polonaise et la Pologne de sa vie, complètement. Ça n'existait vraiment plus du tout. Du tout, du tout. Et d'ailleurs, il racontait énormément de blagues sur la Russie, par exemple, sur Staline, jamais sur la Pologne.
Et quand vous travailliez à Lublin sur le vide, le fantôme, l'exil, qu'est-ce qui s'est passé dans la forêt, quand vous marchiez dans la forêt de Lublin?
J'étais invitée par un musée, pas loin de Majdanek, un camp de mise à mort, en fait, à Lublin. Vraiment 15 minutes de Lublin, à peu près. C'était ma première fois en Pologne, donc je ne savais pas trop à quoi attendre. Et j'ai rencontré une femme allemande, une artiste de Dresden, et qui était très silencieuse pendant toute notre césure là-bas, très mystérieuse comme ça, qui m'a beaucoup intriguée. Un jour, c'était la nuit, je suis allée lui adresser la parole et je lui posais la question, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes là à Lublin avec nous? On ne se parle pas. Elle avait ce regard silencieux très très profond, plein de mystère. Et ses yeux brillaient et puis elle m'a dit que c'est sa 30e fois à Lublin. Et elle y va tous les mois à peu près. Et elle cherche quelque chose. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous cherchez à Lublin? Elle m'a dit, je cherche le Shekhina. Et là, elle m'a laissé sans parole, parce que pour le Shekhina, je sais que c'est un thème religieux plutôt. Moi, je ne suis pas religieuse, mais ce n'est pas comme si on pouvait la chercher vraiment. Et elle m'a dit, si vous voulez, vous pouvez me rejoindre demain à 6h du matin. On va ensemble dans la forêt de Lublin et on cherche ensemble Shekhina, cette présence presque mystique, le côté féminin de Dieu qui se retrouve ici depuis la Seconde Guerre mondiale. Je lui ai dit ok, à 5h du matin, on s'est levé à 6h, on était là. Elle m'a dit enlève tes chaussures. On a marché pendant 1h30, pieds nus, dans la forêt de Lublin pour ressentir cette présence dont elle appelle le Shekhina et moi j'appelle tout simplement le vide.
Alléluia, vai, sabatka tinelai, ti sabatka nelai, malisku не fugai.
Malisku. Mali, katan.
Там, там, там. Ну, один из вас любить, и ненадолго повстречаться, чтоб навеки не забыть.
Ça, c'est à nouveau les berceuses russes. Et c'est la voix de votre grand-mère avec vous qui chantez avec elle au début.
Oui.
C'est quoi? C'est une berceuse qui raconte quoi, celle-là?
Et elle raconte l'histoire d'un chien. Et elle demande au chien de ne pas réveiller sa fille, en fait. Donc, elle dit, Gal est en train de dormir. J'en prie de ne pas la réveiller. Et voilà.
Et vous tenez quoi d'elle? Parce que vous parlez souvent de cette grand-mère russe qui vient de Moscou et qui a un très fort caractère et qui a 92 ans aujourd'hui.
Oui, donc en fait, le savoir-vivre et le bonheur de la vie, l'utopie, l'amour, toute la beauté de l'amour et de la tendresse, je crois que ça vient d'elle. Elle a 92 ans. Et elle a épousé mon grand-père qui était survivant, qui a perdu toute sa famille. C'est vrai que c'était un peu dur avec lui parce qu'il avait quand même une vie assez douloureuse. Donc elle a trouvé des moyens de se faire plaisir. Elle a eu 3 amants en même temps et mon grand-père. Donc elle m'a toujours dit qu'il faut profiter de la vie. Et moi, avant de se marier, j'ai eu un copain. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne te maries pas avec lui? Elle m'a dit, je l'aime pas assez. Elle m'a dit, mais quel est le rapport entre le mariage et l'amour? Je vois pas. Tu fais l'amour avec quelqu'un d'autre, tu t'es marié avec lui. Et puis vraiment, sa façon de voir les choses, très libérale. Et là, elle a 92 ans, elle vient d'avoir un nouveau copain. Il est trop jeune, il a 80 ans. Donc voilà, elle lit que des romans érotiques.
Russe.
Russe, bien sûr. Elle est abonnée à la bibliothèque dans sa ville, Holon. Et voilà, elle aime bien. Elle a un nouveau roman là qu'elle est en train de lire. C'est une histoire d'une femme qui mène une histoire d'amour avec deux hommes. Bon, c'est un thème qui se répète, comme vous voyez. On dirait un cougar. Hein. Voilà.
Et est-ce que c'était évident de se dire, après avoir voyagé, je vais rentrer travailler en Israël? Et je vais faire ma vie là-bas.
Non, j'ai beaucoup aimé Paris. J'aime énormément l'Europe. Je me sens très liée à l'Europe. C'est un peu la culture dans laquelle j'ai grandi. Je me sens profondément laïque aussi. Donc, c'était très bizarre pour moi de retourner en Israël, un pays juif où la religion est très très présente. Mais je me vois utile que là-bas, en fait. Je me suis sentie pas aussi utile, pas aussi... J'ai l'impression de faire quelque chose d'extrêmement important et de rendre un vrai hommage à Eti Hilsum, cette jeune hollandaise que je respecte énormément et qui a bouleversé ma vie avec son livre. Et même si c'est difficile, c'est pas évident, le théâtre n'est pas soutenu par l'État, par exemple.
Parce que Eti Hilsum, c'est le nom du théâtre que vous avez fait.
Voilà. Et c'est vraiment une femme exceptionnelle qui a été déportée malheureusement, mais qui a parvenu à donner son journal avant qu'elle soit déportée à un ami hollandais, et qui a retracé un chemin spirituel où elle retrouve Dieu en elle, pas d'une manière religieuse, mais d'une manière humaine. Et pour moi, c'était particulièrement important de lui rendre hommage, oui, en Israël, dans l'endroit où il y a un conflit, où la guerre s'éclate tous les 5 minutes, à peu près.
ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. יותר מזה יעקב, אני לא יכול לומר כרגע.
אהרון ברנע, בית חולים יחילוב בתל אביב, תודה רבה לך. השעה עכשיו 11:15. ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. אהרון ברנע בבית החולים יחילוב, אנחנו מנסים לחזור אליך.
Ça a représenté quoi pour vous la mort d'Itzhak Rabin, Gal Hurwitz? Parce qu'en 95, vous avez à peine 10 ans. Pour votre génération, ça représente quoi?
D'une manière inconsciente, ça représente vraiment la fin de l'optimisme. Moi, bon, en ayant grandi en Israël, on était... Bon, en tant qu'enfant, on avait toujours... ce rapport très bizarre à la paix. Et puis il y avait Yitzhak Rabin qui a signé les accords d'Oslo. Et puis tout le monde avait parlé de paix. On a pensé que ce serait vraiment la fin du conflit israélo-palestinien, qu'il n'y aura plus de guerre. Que là, on va enfin pouvoir ne plus faire notre service militaire, il n'y aura plus de morts. Il y avait une véritable joie. Et prise de conscience dans l'air. Même quand j'étais petite, je le souviens très bien, même à l'école, on a fait des cours sur la paix. Et puis d'un coup, il a été assassiné. Et je me rappelle de mes parents assises dans le salon et en train de pleurer. Et en me disant quelque chose de très grave se reproduit aujourd'hui. Moi, j'étais dans la place avec ma mère, en fait, juste 20 minutes avant l'assassinat. Et je ne pouvais pas vraiment comprendre... Pourquoi, qu'est-ce qui amène une personne d'assassiner le premier ministre? Et puis, petit à petit, ce rêve d'Oslo a disparu complètement et on est là où on est maintenant, malheureusement. Dans une condition même pire qu'avant.
Il y a des espaces de liberté qui ont été créés et de théâtre, mais toujours de façon... difficile, je pense au Freedom Theater de Giuliano Merhamis, qui était à Jenin, donc dans un camp palestinien. Et on va écouter un petit extrait du film Arna's Children, Les enfants d'Arna, qui était la mère de Giuliano.
وكانت مليحة معانا بكيت كل يوم أروح باستمرار على المكتبة تنى تعلمت أشياء مليحة منها وظلتني مستمر على كبر
احنا كنا نتمرن مسرح إشي خفيف يعني بدائي
ما كانش حدا يساعدنا
بعدين كمان بس تعرفت على جول اللي هو ابن أرنا
Là, c'est Giuliano qui tient la caméra et qui est en train de filmer des jeunes qui font du théâtre avec lui. Et les jeunes disent, on faisait déjà du théâtre avant toi, des jeux, mais personne n'était là pour nous guider. Et après, toi, t'es arrivé, tu nous as appris beaucoup, mais au début, on a pensé, il est juif, il va venir nous espionner. C'est un espion de l'occupation. Mais après, on a appris à se connaître, et donc il y a Giuliano qui les interpelle un peu et qui rigole avec eux sur le fait qu'il pensait qu'il était un espion au début. Ce qui est très très triste, c'est que Giuliano Merhamis a été assassiné. Est-ce que ça vous a fait peur?
Ça m'a fait peur. Non, ça m'a rendu triste, très triste. J'ai beaucoup aimé Giuliano Mer. Je trouve qu'il avait aussi sa manière de contempler l'exil, parce que sa mère était juive, communiste, son père palestinien.
C'est sa mère qui avait créé ce théâtre.
Voilà, c'est sa mère communiste qui avait créé ce théâtre magnifique, extraordinaire, et qui m'a beaucoup inspirée aussi. C'était une femme remarquable. Vraiment, il existe très peu de femmes pareilles avec autant d'élan spirituel. Et j'étais tellement triste que j'ai pensé quitter le théâtre ce jour-là où il a été assassiné. Il a été assassiné par les extrémistes palestiniens. En fait, il était trop juif en Palestine et trop palestinien en Israël. Donc, il n'a jamais retrouvé sa place. C'était un vrai combattant. C'était un très bon comédien. Et il a fait un peu ce que je suis en train de faire, mais à Jenin, dans un camp de réfugiés. Et je crois que tout le monde se souvient de lui. Tous les élèves qui sont aujourd'hui grands, je crois que aucun est devenu terroriste, aucun. Et je suis sûre que c'est lié au théâtre. Je suis sûre. Et c'est une histoire vraiment triste. Même aujourd'hui, quand on parle de Julian Omar, j'ai l'impression que quelque chose est mort avec lui, en fait.
Avec Lolonis, c'est comme entrer dans la forêt qu'on a traversée avec Gal Hurwitz, sur la pointe des pieds, et puis en criant. C'est un quartet expérimental qui chante les sentiments, qui partage une même passion pour la musique des Balkans. Parfois, il y a des influences russes. Ils appellent ça des sortilèges, un hommage aux sorcières modernes. Et le morceau qu'on va entendre s'appelle...
Naka. Nous sommes le groupe Lolonis. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charron sur France Culture.
Love.
Je dessinais le chemin pour aller au théâtre de là où je vis à Tel Aviv. Donc je prends le bus, normalement le bus numéro 18, 25 ou 125 si vous êtes dans le coin. Et puis je passe par le marché, et j'aime beaucoup le marché. Et parfois je mange du halva dans le marché, que j'aime beaucoup.
La plage.
La plage, on traverse la plage qui va jusqu'à Jaffa. Et puis on traverse aussi mon poissonnière, Mohamed, que j'aime beaucoup. Et puis on arrive à Jaffa. On arrive d'abord à la vieille ville de Jaffa, qui est devenue un peu chic. Et on peut dire que c'est un endroit un petit peu hipster, où les gens se retrouvent pour boire un verre. Mais c'est pas du tout là où mon théâtre se retrouve. Parce que quand on va vers le sud de Jaffa, on voit un quartier pauvre, assez isolé, défavorisé. Et on se retrouve en plein milieu d'une... comme une place en fait, entourée d'une mosquée, une église et une synagogue. Il n'y a pas un seul café. Il y a quelques bâtiments, je crois, des années 50, on dirait un petit peu communistes. Et puis là, on monte un petit peu. Il y a un dealer de drogue juste à côté.
On aura tous les détails. Le poissonnier, le dealer de drogue.
Voilà. D'ailleurs, le fils du dealer de drogue est chez nous, dans le théâtre. Et puis là, on retrouve notre théâtre, un magnifique lieu de 430 places, en plein milieu de nulle part. Et c'est là qu'on se retrouve avec les jeunes. Presque 70 jeunes, tous les jours, 5 à 6 fois par semaine.
Là, on entend le son de la mer de Tel Aviv. Et dans les sons que vous évoquiez de votre vie, il y avait toutes les langues, il y avait le son de la mer et il y avait le bouillonnement du thé. Pourquoi ? Parce que vous disiez, toutes les idées, elles viennent pendant le bouillonnement du thé du matin.
Oui, parce qu'on m'a toujours dit, je pense que c'était ma mère qui me l'avait dit. Et bon, là, j'ai un compagnon que j'aime énormément. Et on m'a toujours dit qu'ici, un homme sait préparer le thé que j'aime, il faut que je le pose. Donc, il se préparait mon thé et j'aime beaucoup le thé. Je bois jamais de café. Donc, tous les matins, j'ai besoin de mon thé pour réfléchir. Et même l'idée de théâtre m'est venue en buvant de Earl Grey.
Pourquoi vivre à Jaffa ?
Jaffa, c'est un choix absolument social, politique et personnel. Quand je suis revenue en Israël, je ne me suis pas trouvé ma place. J'ai senti qu'après 3 ans ici, je me suis éloignée un peu de tout. En revenant comme ça sur la ville Tel Aviv, je me suis dit que je n'arrive pas à trouver ma place. Je ne sais pas, voilà, comme ça. Et j'avais besoin d'avancer sur le plan personnel, intime et aussi social, c'est-à-dire de construire quelque chose qui m'appartient plus. Et je voulais aussi de me débarrasser des peurs. Je me suis grandie avec des peurs, avec une éducation pas forcément hostile, mais qui a fait que mes peurs et mes réflexions étaient fragiles envers les Arabes, envers les Palestiniens, envers le conflit, l'histoire de ce pays. Et j'ai cherché. Et bien sûr, bon, c'était chercher... Avant que je tombe à Jaffa, j'ai cherché d'autres villes comme ça, où je peux habiter et sentir que je peux faire quelque chose mieux pour moi-même, pour la vie. En rentrant dans la ville Jaffa, je savais... Et tout de suite, j'ai trouvé un appartement et je me suis dit, c'est là, c'est ici que je veux vivre, parce que je veux me permettre marcher dans les rues arabes, dans une ville arabe, avec les Arabes, sans avoir le tremblement que j'ai dans le corps, tout simplement parce qu'on m'a raconté ou pas raconté quelque chose quand j'étais petite, et d'avoir la possibilité tout simplement s'asseoir dans un café et peut-être rencontrer un Palestinien et regarder dans les yeux de l'autre et dire bonjour et manger quelque chose peut-être avec eux sans parler même. Je n'ai pas cherché à révolutionner le monde en 2 jours. C'est pas ça que je cherchais. J'ai cherché de m'approcher. Et petit à petit, ça a pris du temps. Hein. C'est-à-dire, la première année à Jaffa n'a pas été facile pour moi. Mais après, voilà. Bon, c'est ma ville préférée au monde.
C'était la voix de l'actrice-réalisatrice Ronit Elkabetz. Est-ce que pour vous, Gal Hurwitz, Jaffa, c'est aussi un choix politique, comme elle le dit, ou en tout cas une façon de se débarrasser de ses peurs et de permettre que quelque chose se passe entre des gens qui ne se croisent pas forcément.
Je peux dire que le théâtre est le seul espace commun où on n'évoque pas directement le conflit israélo-palestinien, où on fait travailler les gens, en leur faisant rêver directement par le théâtre. Par Tennessee Williams, par Tchekhov, par la poésie. Donc oui, bien évidemment, sans que ce soit directement politique, être à Jaffa, faire un théâtre d'une mixité culturelle, c'est un choix politique. Et oui, effectivement, choisir la proximité humaine, c'est pas du tout évident aujourd'hui en Israël de faire rencontrer des gens, de le faire regarder l'autre.
Et comment on fait quand on n'est justement pas soutenu par l'État ?
On est soutenu par des Français et par l'Europe qui respectent énormément nos efforts et qui tentent vraiment d'initier une démarche de paix. Et c'est une première étape. C'est une première étape vers la paix, c'est de faire rencontrer des gens à travers les histoires. À travers leur misère personnelle, c'est des adolescents en difficulté qui ont d'autres problèmes. On ne vit pas quotidiennement le conflit israélo-palestinien. Les gens, ils ont des chagrins d'amour, ils ont des problèmes à la maison, on a des cas de viol, d'inceste. Mais oui, effectivement, quand, que l'on travaille Tchekhov, par exemple Sonia de l'oncle Vania, ou dit « Je ne suis pas belle ». C'est pareil quand un acteur arabe israélien que le dit, ou un acteur juif israélien que le dit. C'est la même chose et c'est là qu'on se rencontre.
Vous avez commencé un instrument, Galurvitz, pendant la dernière guerre, en 2014.
Oui, donc je...
Là, on entend le joueur de oud, Anwar Brahem.
Oh, que j'aime. Ben, c'est une découverte récente, le oud. Depuis la guerre avec Gaza en 2014, je suis revenue en Israël. On a commencé de travailler dans le théâtre. Et puis, on se retrouvait là avec des jeunes arabes, musulmans, juifs, chrétiens. Et on se retrouvait dans une situation très, très délicate parce qu'on avait des jeunes qui avaient de la famille à Gaza, des jeunes arabes. Et dans l'autre côté de la salle, on avait des jeunes israéliens dont les frères étaient dans l'armée, donc à Gaza. Et on se demandait comment réconcilier... cette situation très, très, très douloureuse.
Et le théâtre a continué, même pendant l'été de la guerre.
Oui. Pendant l'alarme, on était dans l'abri et on a continué. Tout le monde m'a demandé d'arrêter, même la mairie de Tel Aviv. Et moi, je trouvais que ce serait plus beau et plus sage et ce serait un vrai message de foi de continuer pendant la guerre. Pas seulement de continuer, on a même travaillé beaucoup plus. Et on avait parlé, et j'ai trouvé que l'intermédiaire la plus puissante, quand on n'a plus de mots, parce qu'on se retrouvait dans l'abri en train d'être bombardé par des roquettes venant de Gaza, juifs, arabes, tout le monde était ensemble. Et puis ils savaient très bien que leur famille en était bombardée à Gaza, et les Israéliens juifs savaient que leurs frères étaient là en train de combattre le Hamas, donc des terroristes aussi. Et j'ai trouvé que la musique était quelque chose d'extrêmement puissante et on a passé des heures à écouter le oud. Moi, j'ai tombé follement amoureuse de oud et j'ai décidé pendant la guerre de commencer mon apprentissage de oud à l'âge de 28 ans. J'ai trouvé une professeure magnifique bosnienne qui a subi la guerre à Sarajevo, qui m'apprend le oud jusqu'à aujourd'hui et que j'aime énormément. Marina.
J'ai trouvé cette fable de la classe morte. Le vieillard retourne à son enfance, c'est-à-dire à la classe scolaire, comme les enfants. Ils pensent qu'ils sont enfants, mais il faut faire quelque chose pour exprimer à la façon scénique. Alors c'était ma découverte qu'ils doivent porter sur les dents son enfance. Mais qu'est-ce que ça veut dire porter son enfance sur les dents? Naturellement, c'est poétique. Et chacun de nous, dans certains âges, porte toute son enfance, oui. Mais encore pire, je me suis dit que ces vieillards, ce sont les bandits, ce sont les tueurs de son enfance. Parce qu'il faut dire, et c'est mon opinion, que nous tous, c'est-à-dire les adultes, les messieurs âgés, les dames âgées, ce sont les tueurs de son enfance. Parce que l'enfance, c'est la condition humaine artistique. Après, on tue. Seulement restent quelques individus, et ce sont les artistes.
Tadeusz Cantor, il dit qu'on porte son enfance sur le dos et qu'après il a trouvé une solution sur scène, on porte sa marionnette, on porte la poupée. Qu'est-ce qui vous a appris, Cantor, Galurvitz? Il parlait de sa pièce La classe morte.
Oui. Cantor m'a tout appris sur le théâtre, en fait. J'ai jamais croisé un metteur en scène chez qui je trouvais tout ce que j'aime dans l'art ou dans le théâtre, sa façon de voir l'histoire, de regarder au-delà des événements quotidiens banals, de voir vraiment la misère de toutes les communautés en Pologne, d'aller vraiment au-delà de l'intellect. Chez lui, vraiment, il était bien évidemment très intelligent, mais ce n'était pas des spectacles intellectuels. Là où il y a un vrai, vrai pensée émotionnelle, on va dire, qui se dégage. Pour moi, c'est l'art même. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer une femme remarquable qui a travaillé avec lui, Michel Kokosowski. Et une femme que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée hier, qui était ma professeure à Paris 8, où j'ai fait mon mémoire. Et qui m'a beaucoup appris un peu sur la façon de rester vivant, justement de maintenir l'enfance et sur scène, dans la vie, avec beaucoup de ferveur, de rigueur et d'amour. Et la classe morte serait toujours mon spectacle.
Il y a une autre voix d'un metteur en scène polonais qui vous a beaucoup inspiré, c'est la voix de Grotowski.
Alors on cherche qu'est-ce que j'ai fait, quelle a été, pas même logique, mais le flux qui a porté mes intuitions. Je vais les découvrir, je vais les reconnaître à travers du corps, sans faire la description verbale, mais avec le langage du corps. Et quand j'ai reconnu, je cherche qu'est-ce qui a été essentiel dans cela. Et je vais construire de ces intuitions vivantes qui ont été les plus importantes, le plus essentiel, une ligne. Cette ligne, c'est la partition. Et l'improvisation, ça a été reconnaître la chose que nous avons déjà rencontrée dans notre vie, reconnaître à travers du corps. Mais il y a une autre possibilité, que l'improvisation, à travers l'improvisation, nous allons nous confesser des manques de quelque chose. Quelque chose la vie n'a pas nous donné. Mais ce que la vie n'a pas nous donné a été pour nous le plus essentiel. Alors nous cherchons qu'est-ce qu'il a été le plus essentiel que la vie n'a pas donné à moi. Et je vais reconnaître cela sur le domaine des métiers. Maintenant, je vais reconnaître la chose que je n'ai pas appris dans la vie. C'est une autre route.
C'est donc la voix de Grotowski. Qu'est-ce que ça permet, le langage du corps sur une scène? Qu'est-ce que ça permet de retrouver de quelque chose qui manque ou qui n'a pas été donné comme il en parle?
La parole, elle s'arrête un bout d'un moment. Il y a des choses dont on ne peut vraiment pas parler, comme la mort, comme le génocide, justement, comme la perte. Et c'est là que le corps prend forme et se transmet à quelque chose de, on va dire, il prend un visage, un vrai visage, une image, ça nous renvoie quelque part, ça nous permet de voler et d'aller au-delà des mots, ça veut dire vers les émotions, vers la profondeur de l'âme, vers les racines, vers les sources de l'humanité. Et tout ce qui est rapport au corps est très... très, très délicat, surtout dans mon théâtre, mais dans chaque forme d'art scénique, je trouve.
Et si on porte son enfance sur le dos, comme dit Cantor, vous portez quoi sur le dos, vous, aujourd'hui, dans votre vie?
Moi, je crois qu'il y a une réminiscence d'exil. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on était vécues par mes grands-parents, ou par ma mère. Cette notion de ne pas avoir un pays, d'être ailleurs, d'être chassé, persécuté, et ces histoires de la résistance surtout. que je porte sur mon dos. En tant qu'enfant, j'ai entendu mon grand-père parler de ses 13 frères et sœurs. Chaque anniversaire, il avait un anniversaire et il avait une liste avec les noms de ses 13 frères et sœurs qu'on était déportés. Il les a lus comme ça. Et puis, je crois que c'était un peu ça aussi, mon enfance, avec beaucoup aussi de souvenirs joyeux, bien évidemment, les parcs à Holon, les immigrés russes qui arrivaient dans les années 80, le mélange des langues, les fêtes familiales. Ma mère était journaliste, elle voulait absolument, à l'âge de 10 ans, que je sache que c'était une prostituée, donc elle m'a amenée en prison. Il y avait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs, mais je crois que toutes ces choses-là m'ont formé et m'ont donné un sens, et m'ont amené à faire ce que je fais aujourd'hui, qui c'est un théâtre qui va pour moi à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce mélange entre la pédagogie et le théâtre, entre la parole justement et le corps, et donner sens à l'enfance de l'autre, qui est parfois malheureux, lui donner forme. Et en donnant forme, ça donne du coup, ça renvoie une image positive d'un être humain.
Est-ce qu'on peut finir par lire un poème sur l'exil que vous avez choisi?
Oui.
Et qui est en hébreu?
Bien sûr. Donc c'est un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Léa Goldberg. Elle a immigré en Israël de Lituanie. Bien avant la guerre, et elle a écrit un magnifique poème sur l'exil parce qu'elle, elle se sentait toujours déchirée entre deux pays, entre Israël, le breu, la langue qu'elle aimait tellement, puis la langue russe, qu'elle aimait aussi, dont elle était très amoureuse. Donc je le lis. Kan lo ishma et kol hakukiya, kan lo yachbosh haetz mitznefet sheleg. אבל בצל האורנים האלה, כל ילדותי שקמה לתחייה. צלצול המחטים היו היה, אקרא מולדת למרחב השלג, לקרח ירק רק קובל הפלג, ללשון השיר בארץ נוכריה. אולי רק ציפורי מסעה יודעות, כשהן תלויות בין ארץ ושמיים, את זה הכאב של שתי המולדות. אתכם אני נשתלתי פעמיים.
À partir des lieux qui se ferment pour aller vers ceux qui s'ouvrent, les nouveaux, les adresses qui n'existaient pas avant, là vers où on va. Le théâtre de Gal Hurwitz s'appelle le Eti Ilsoum Youth Theater, il est à Jaffa dans le sud de Tel Aviv. Avant la nuit, je dis merci à Lucie Spindler, Inès Debrine, merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et merci à la technique à Pascal Bernard et Julien Calva. Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture, ce sera l'heure de Théâtre et Compagnie avec Blandine Masson.